Les séminaires du Collège de France.
Bon, le plaisir d'avoir Anne-Marie Robert qui va parler des séries de Bernstein enrichies et paramètres de l'enlance et algèbre de Hecker.
Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation. Donc, c'est un plaisir et un honneur de parler ici dans ce séminaire. Donc, dans le cours qui a précédé, donc on a vu la notion de centre de Bernstein. Donc l'idée, c'est de construire un analogue du centre de Bernstein, mais de l'autre côté de la correspondance de Langlands locale, c'est-à-dire pour des objets que je vais définir tout de suite et qui, ce que nous appelons des paramètres de Langlands enrichis. Et donc ceci sans supposer l'existence de la correspondance de Langlands. Et dans un deuxième temps, d'utiliser cette construction pour construire une correspondance de Langlands explicite dans divers cas. Donc, je vais d'abord donc vous parler de paramètres de Langlands enrichis. Alors, un bref rappel des notations et de la situation que je vais considérer. Donc, F va être un corps local non archimédien, comme dans le premier exposé, de caractéristiques résiduelles petit p, en premier, et G, comme tout à l'heure, ça sera un groupe algébrique réductif connexe défini sur F, et G de F, donc les F points de ce groupe. Et j'ai aussi noté WF, le groupe de veille absolu de F. Donc la correspondance de Langlands, disons classique, puisque il y a maintenant des versions plus géométriques et plus catégoriques, on la voit comme une. D'abord une application surjective à fibre finie, que je vais appeler L ou LG pour mentionner le groupe, de l'ensemble des, on va dire, IR G, donc les représentations lisses irréductibles de G à conjugaison près, dans un ensemble ici, que je vais appeler comme ceci, donc, qui va être donné par des paramètres de Langlands, c'est-à-dire des morphismes de SL2 de WF, du produit semi-direct de WF croix SL2C, qui est une version du groupe de veille de ligne, qui est celle qui va être la plus pratique pour ce que je veux raconter. À valeur dans le L groupe de G, qui est donc le produit semi-direct de G par WF, ou G de check, expliqué mes notations ici, est un groupe réductif complexe de données radicielles duales de celles de G. Donc par exemple, si G c'est. Par exemple, si mon groupe G c'est GL2, G de check c'est aussi GL2, je prendrai les points sur C, et si G est SL2, G de check ce sera PSL2 qui est isomorphe à PGL2 de C, et inversement, si j'avais pris PGL2, j'aurais trouvé pour G de check SL2. Donc, ce sont des morphismes qui sont continus et qui sont qui ont de bonnes propriétés, enfin des propriétés habituelles. Donc, la restriction de phi à SL2 est un morphisme algébrique, un morphisme de groupe algébrique. Et donc, je suppose que si je prends les éléments de WF fois l'identité, est uniquement formé d'éléments semi-simples. Et d'autre part, que la projection de, si je considère la projection sur WF des deux côtés, c'est que elles sont compatibles. Donc ça, donc si, et on va appeler pi phi pi un morphisme qui lui est associé ici. Donc je vous ai dit que les fibres étaient donc il s'agit d'une correspondance dans le cas général qui est encore conjecturale, même si elle a été établie dans de nombreux cas. Et donc ces fibres de, donc la fibre de pi, c'est ce qu'on appelle, on a noté pi phi. Alors, je vais précise. Donc, ça, c'est la fibre de phi. Donc, c'est des éléments pi, tels que phi pi soit conjugué à phi. Parce que j'ai oublié de dire que, de même que là, j'ai pris un isomorphisme près, le groupe Jeschek agit par conjugaison sur l'ensemble des paramètres de Langlands. C'est donc. Ce qui nous intéresse, ce sont les classes de conjugaison. Donc voilà. Et donc ceci, on appelle ça un L paquet. Donc c'est le paquet défini par le paramètre de Langlands. Alors dans le cas de GLN, cette application est en fait bijective. Et donc si on connaît pour tout pi phi pi, on est content. Alors pour déjà quand on regarde SL2, ainsi que ça a été mentionné pendant le cours, on peut avoir, donc c'est pas toujours bijectif, on a des paquets formés de un élément, de deux éléments ou de quatre éléments. Donc si on veut avoir une description plus précise, c'est-à-dire avoir une bijection, on va enrichir cette application phi en essayant de décrire la structure interne des paquets. Donc là, on va avoir une bijection entre ce que j'appellerai les paramètres de Langlands enrichis de G2F, qui sont en fait donnés par. Ce sont des couples formés d'un paramètre de Langlands et d'un deuxième terme, rho, où rho est une représentation irréductible d'un groupe fini, que je vais appeler S phi. Alors, pour me simplifier la vie, pour éviter que cet exposé soit trop technique, on va supposer que j'ai. Est une forme intérieure pure d'un groupe quasi déployé. Bon, la théorie marche en général, mais simplement c'est plus long à écrire. Pure. On peut considérer un groupe donc quelconque, et on peut un groupe quasi déployé. Oui, alors j'avais écrit classique parce qu'en fait les applications que j'ai en vue sont notamment pour les groupes classiques. Dans le cas où je prends des formes intérieures d'un groupe pur, d'un groupe classique quasi déployé, donc par exemple un groupe symplectique, un groupe spécial orthogonal ou G-spin aussi. Voilà, et donc dans ce cas-là, on va considérer le groupe suivant, centralisateur dans G de phi, qui est le centralisateur dans G de check de l'image de phi. Alors je vais l'écrire comme ceci parce que tout à l'heure, nous aurons un autre groupe qui va ressembler, bien les distinguer. Et le groupe S phi, c'est simplement le groupe des composantes de G phi. Alors, donc, je vais appeler celui-ci A phi. Z phi sur. Donc, une chose, dans le cas de GLN, donc ce groupe. Ce groupe il est connexe et donc son groupe de composantes est trivial. En général, ce groupe n'est pas connexe et donc on a un groupe de composantes qui est un groupe fini. Et alors, on va dire comme ça pour simplifier, si le groupe G est déployé, ou quasi déployée, en fait. Si c'est la forme quasi déployée, en particulier s'il est déployé, S phi, c'est simplement ce groupe-là, donc que je vais appeler pi 0 de ZG phi. Non, je vais l'écrire, pardon. Je vais l'écrire comme ceci. C'est le quotient de ça, de ceci par le centre de G chapeau fois ce groupe ici. Voilà. Et c'est le groupe qui va me donner les paquets. Et en général, donc je vais appeler. On va noter G étoile, la forme quasi déployée. Donc j'ai mon groupe G, il est toujours donc forme à taille rapport d'un groupe quasi déployé. J'appelle G étoile ce groupe quasi déployé. Et les formes intérieures pures sont correspondent à des éléments de H1 FG. D'autre part, par résultat de Kotwitz, on va associer à une telle forme un caractère irréductible du centre de G chapeau fixé par WF, un caractère zeta. Ce caractère zeta G, je peux l'étendre en un caractère de S de G. Et donc chaque, à tout groupe G, je définis comme ceci un caractère de S de G. Et le groupe S phi que je prends, ça va être le groupe des. Ça va être pardon. Ça va être ce groupe-là, les caractères irréductibles que donc je vais considérer ir de S phi. Donc, et ce sera ir de S phi, disons zeta. Zeta G, où je vais prendre les caractères de S phi, qui est de. Ce que j'ai écrit, j'ai changé mes notations en cours de route, de A phi, et les caractères de A phi, dont la restriction A au centre coïncide avec ce caractère ici. Comme vous le voyez, ce qui apparaît naturellement, ce n'est pas ce groupe. S phi, mais vraiment le groupe A phi. Et ça a une importance, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important d'une certaine manière, ce n'est pas juste le L paquet d'un groupe, d'une forme intérieure donnée, d'un groupe donné, mais le L paquet de toutes les formes intérieures ou toutes les formes intérieures pures de ce groupe. C'est ça qui apparaît naturellement dans la théorie. Donc voilà, et donc on va considérer rho, les représentations irréductibles de S phi. Et on dira que rho est un enrichissement de phi. Et que phi rho est un paramètre de Langlands ou L paramètre enrichi. Et l'objet qui va m'intéresser, donc, ça sera les classes de G-check conjugaison de tels objets. Donc, G-check agit naturellement par conjugaison à la fois sur phi et sur rho. Les classes de conjugaison de L paramètres enrichis. Alors, encore une fois, ça, je devrais l'appeler phi e. Donc, ça, c'est si je considère toutes les formes intérieures pures de mon groupe en même temps. Et si je fixe G, enfin G de F, ce sera en fait les classes de conjugaison de L paramètres enrichis qui sont G pertinents. Et G pertinent, ça veut dire que ils correspondent que le rho qui est là, si on le restreint au centre, on retrouve le caractère qui paramètre la forme intérieure pure que l'on considère. Donc, on va s'intéresser à ça et l'objectif. Enfin, la première partie, disons, de mon exposé, c'est de construire une décomposition à la Bernstein de cet ensemble. Et donc, c'est en fait une décomposition, pour le moment, ensembliste, et donc c'est en fait juste une partition de phi e de chez F. Donc, si on repense à ce qu'on a vu dans le cours précédent, il y avait deux types de représentations qui sont apparues de manière naturelle, les représentations supercuspidales et les représentations, donc pour SL2, de la série principale, et plus généralement le fait que toute représentation irréductible est sous quotient d'une induite parabolique d'une représentation supercuspidale d'un sous-groupe de Lévy. Et ça joue dans la décomposition de la catégorie des représentations lisses par Bernstein. Donc, si on veut faire quelque chose d'analogue, on a besoin de définir une notion de cuspidalité dans ce cadre-là, et aussi, de même qu'on va dire qu'une représentation est sous quotient d'une induite parabolique d'une supercuspidale, on dira que la supercuspidale du sous-groupe de Lévy associé, le Lévy et la supercuspidale, donc ce qu'on a vu dans la variété de Bernstein, c'est en fait le support supercuspidal de la représentation de départ. Donc de la même manière ici, on voudrait, partant d'un paramètre de Langlands enrichi arbitraire, être capable de lui associer un sous-groupe de Lévy et un paramètre de Langlands enrichi cuspidal de se associer à ce sous-groupe de Lévy. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura essayer de vous décrire ce que c'est que cette partition, la deuxième étape, ça sera, si on a une partition, pour chaque bloc, et décrire la structure de ce bloc et de comprendre quels sont les éléments qui sont associés à ce bloc. Et c'est là où apparaîtront des algèbres de Hecke. Alors, cuspidalité. Oui, alors, donc on veut faire ça, mais pour faire ceci, on va se restreindre dans un premier temps à une situation plus simple. Donc on oublie la correspondance de Langlands, enfin on oublie les paramètres de Langlands enrichis, et donc on a ce groupe ici, J-check, et en fait, de même que j'avais un groupe ici qui était ZG de phi, on va voir qu'on peut considérer un autre groupe que j'appellerai G calligraphique phi, qui est simplement le centralisateur dans G chapeau, dans G tchèque, je ne sais pas comment on dit en français, enfin G, bon bref, de l'image par phi, mais non pas de tout de WF croix SL2, simplement de WF. Et de même que tout à l'heure, ce groupe, c'est un groupe réductif, complexe, mais qui en général n'est pas connexe. Enfin, n'est pas nécessairement connexe. Donc, on va s'intéresser à cette situation-là. Et plus précisément, on va s'intéresser à la correspondance de Springer . Alors, pourquoi? Parce qu'on a un groupe, Springer généralisé. Donc, je termine ma remarque. Donc, on a ce groupe ici. Mon paramètre qui est là, dans SL2, j'ai un unipotent standard, donc ici, donc une matrice de 2 avec 1 sur la diagonale et 1 au-dessus et 0 en dessous. Donc, si je regarde l'image par mon paramètre de ceci, je trouve un élément U phi. Pour simplifier, pour l'idée, on va supposer que, enfin, disons, pour expliquer ça, que mon groupe est que en fait ma forme intérieure, ma forme quasi déployée est déployée, et à ce moment-là, le produit semi-direct ici est un produit direct, et donc je peux oublier WF. Donc ceci est un élément unipotent. Bon, on peut unipotent. Ça marche en général, mais c'est juste pour que je pense que c'est plus clair comme ça. Un élément unipotent de J-check. Donc, et d'autre part, cet élément unipotent, en fait, il suffit de le regarder, il est dans le groupe GFI et même dans la composante identité, la composante neutre de GFI. Donc j'ai un élément unipotent de GFI et j'ai rho qui est ici. Enfin, rho, c'est un caractère de mon groupe SFI. En particulier, c'est un caractère, je peux le voir comme un caractère de ce groupe-là. Si j'oublie la condition sur sa restriction au centre de G-check. Et le truc important, c'est que ce groupe A de phi, en fait, on peut vérifier facilement que A de phi est isomorphe à ce que j'ai envie d'appeler AG phi de U phi, c'est-à-dire le groupe des composantes du centralisateur dans G phi de U phi. Donc vous avez un groupe réductif complexe, éventuellement non connexe, un élément unipotent de ce groupe, le centralisateur de cet élément unipotent dans ce groupe, son groupe des composantes, ça c'était un pi, et un caractère de ce groupe. Donc ça donne envie de parler de correspondance de Springer ou de correspondance de Springer généralisée. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on se place dans la situation suivante. Donc on a un groupe G. Alors bien sûr, mon groupe G, que calligraphique G ici, ce sera pour l'appliquer au groupe GFI. Donc j'ai un groupe réductif complexe. Alors, premier cas, on va supposer que j'ai connexe. Alors, si j'ai connexe, on a d'une part la correspondance de Springer toute ordinaire, disons, non généralisée, qui nous définit une injection des caractères irréductibles de WG ou WG, c'est le groupe de Weyl de G, c'est aussi un terme maximal. Dans ce que je vais appeler UE de G, qui est l'ensemble des alors je vais l'écrire comme je vais l'écrire comme ça d'abord, URO G, où U est un élément unipotent. Donc il est dans U de G, donc il est un élément unipotent de G, et rho est justement une représentation irréductible de AG de U, où AG de U, c'est le groupe des composantes du centralisateur de U dans G. Une autre manière de le voir, plus géométrique, c'est de dire que c'est l'ensemble. Et ceci a les classes de conjugaison de ces. Ben oui, non, ça c'est bon. Les U, rho, pris à G conjugaison près. Et donc, de manière plus géométrique, on peut les voir comme des paires CU, où C est une classe unipotente, classe de conjugaison unipotente, et E est un système local irréductible, et G équivariant. G équivariant est sur la classe C. Donc, la correspondante de Springer, qui a été donc introduite par Springer en caractéristique nulle, puis dans ce cas-là, c'est bon pour nous, puis étendue aussi sur des cordes de caractéristiques quelconques par Lustig, nous définit une application injective de IR de G là-dedans. Donc c'est, en général, ce n'est pas une bijection. Pour GLN, c'est une bijection, mais en général, ça ne l'est pas, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les classes unipotentes sont atteintes, c'est-à-dire que la paire formée d'une classe unipotente et du système local trivial est toujours dans l'image de cette injection. Il existe en général des caractères rho qui ne sont pas atteints par cette injection. Et donc, si on veut avoir une bijection, c'est un peu comme ce que j'ai expliqué juste avant sur qu'il fallait enrichir la correspondance de Langlands. Enfin, il faut aussi là aussi enrichir ce côté, enfin en un sens un peu différent, mais et pour cela, au lieu de considérer simplement, donc il faut penser à ceci comme étant les objets de la série principale dans cette situation, et donc on veut les autres séries. Donc on va remplacer WG, qui est le groupe de Weil de G, par toute une série de groupes de Weil associés à des Lévy. Donc, plus précisément, correspondant Springer généralisé. Donc ça, c'est Lustig 1984. Et c'est totalement explicite, calculé, enfin explicitement dans chaque cas, de manière combinatoire aussi. Donc on peut tout calculer. Et donc là, on a une bijection naturelle. Ici, on a ce qu'on voulait. Donc un enrichissement de la variété unipotente de G. Et ici, l'union de IR de WL. L. Alors, ce que j'appelle WL, c'est le groupe de Weil relatif, c'est-à-dire le normalisateur dans G de L mod L. L et L est un sous-groupe de Lévy de G, mais pas n'importe lequel. En fait, ici, on va considérer des objets qui sont de la forme suivante. Je peux le dire de façon qui soit claire. Normalement, je devrais dire ça, L, et en fait, il faudrait avoir ici une classe de conjugaison et un système local EL. Tout ceci pris à G conjugaison, ou CL, EL, et formé d'une classe de où le système local EL est un système local cuspidal sur CL. Et le groupe en fait qu'on aurait envie de prendre ici, c'est le normalisateur dans G de L et de ce système local cuspidal. Simplement, en fait, il ne dépend pas du choix. Il existe des systèmes locaux cuspidaux, mais il y en a suffisamment peu pour que ça. En fait, quand on regarde le normalisateur du Lévy et du système local cuspidal mode de Lévy, ça ne dépend pas du système local cuspidal, donc c'est pour ça qu'il y a juste Ng de L sur L. Idéalement, j'aurais voulu vous définir ce que ça voulait dire cuspidal, mais comme le temps passe, j'ai de dire oralement. Donc, en fait, on va considérer la variété unipotente d'un groupe G, la variété unipotente d'un sous-groupe de Lévy L de G. Et donc, sur la variété unipotente de G, on va considérer les faisceaux pervers qui sont G équivariants. Et donc, on peut définir une induction entre la catégorie des faisceaux pervers G, L équivariants sur la variété unipotente de L, à valeur dans la variété des faisceaux pervers G équivariants sur la variété unipotente de G. Donc une sorte d'induction parabolique géométrique dans ce cadre. Et un objet va être dit cuspidal s'il n'apparaît dans aucun tel induit pour un sous-groupe de Lévy propre. Donc on peut aussi définir une restriction. Et c'est aussi équivalent à dire que les deux functeurs sont adjoints, et donc c'est équivalent à dire que notre objet n'apparaît. Enfin, toutes ces restrictions paraboliques, dans ce sens, sont pour tous les Lévy propres, sont nulles. Donc il y a d'autres il y a des définitions équivalentes de cuspidalité qu'on peut introduire. Et une chose que je voulais dire. Donc oui, pardon. Quand je parle d'objets cuspidaux. En fait, ce dont je parle, c'est de ceci, du faisceau de cohomologie d'intersection de IL-EL. Et les objets simples sont tous de cette forme-là. Et on dira que la paire CL-EL et cuspidale si le faisceau associé est cuspidal au sens que je viens d'expliquer. Donc ça, ce sont les objets cuspidaux. Et ce que nous dit Lustig en plus, c'est qu'on a une décomposition donc, de la variété, de l'enrichissement de la variété unipotente associée, comme une partition de cette variété. En fait, c'est essentiellement ce que j'ai écrit là. Donc, en fait, on peut voir ceci comme union sur ces triplés donc si j'appelle T un tel triplé UT de G ou UT de G donc de même que tout à l'heure je vous ai rappelé que à toute représentation irréductible on peut associer un Lévy et une supercuspidale bien définie à G conjugaison près. De la même manière, à tout faisceau pervers, à tout faisceau pervers G Q variant sur la variété unipotente de G, on associe un sous-groupe de Lévy de G et un objet cuspidal sur ce Lévy qui est bien déterminé à G conjugaison près. Et on peut aussi Lustig a aussi défini une application de support cuspidal qui associe à un faisceau pervers G équivariant sur la variété unipotente de G, l'objet cuspidal sur le Lévy. Et donc ce que j'appelle UT de G, UTE de G, ce sont les paires ici dont le support cuspidal est T. Donc on a une décomposition comme ceci, et par ailleurs, c'est un peu tautologique là ce que j'écris, mais c'est juste pour fixer les idées. Donc IR de WL est en bijection canonique avec cet espace-là. Donc c'est exactement ceci qui nous intéresse. Donc dans un premier temps, avec, en collaboration avec Ahmed Moussaoui, qui est mon ancien étudiant, et Martin Seleveld, nous avons étendu la correspondance de Springer généralisée au cas d'un groupe qui est non connexe. AG non nécessairement connexe. Tout ça marche de la même manière. On peut aussi définir une notion d'objet cuspidaux et une partition. En revanche, la différence, elle se situe ici. Donc, dans le cas non connexe, on a U, donc je vais écrire dans ce sens-là, U, E, T, G, qui est en bijection avec... Donc ici, je pourrais écrire IR de C de WL, la même chose. Mais dans le cas non connexe, en fait, on a un il peut y avoir un cocycle qui intervient, qui dépend de T. Donc KT est un deux cocycles. Alors, il y a quelques petites subtilités. Alors déjà, il faut que je remplace L par M. Donc L, c'est toujours mon... Donc, L, ça va être un Lévy de la composante neutre de G. Et je vais considérer le centralisateur dans G de la composante neutre du centre de L. Et j'ai appelé ceci M, c'est ce que nous appelons un quasi-Lévy. Donc dans le cas connexe, c'est un Lévy. Donc ici, je vais avoir un groupe qui est... que je vais appeler W0 T. T, c'est toujours... Alors, T, non, c'est pas toujours. Ici, ça va être M, et un objet cuspidal associé à M, pris à G conjugaison près. Donc, W0 de T, c'est simplement W de L. Et où M est défini à partir de L comme ceci. Et WT, c'est la généralisation au canon connexe, donc c'est le normalisateur dans M de T modulo M. Et celui-ci est contenu dans celui-là. Et donc mon cocycle, il va de WT, il est trivial, donc dans le cas connexe, il n'y a pas de cocycle, donc il est trivial sur W0T, la valeur dans C étoile. Donc voilà la situation. Donc on a une décomposition de l'enrichissement de la variété unipotente par une partition comme ceci, associée à des objets cuspidaux, qu'on voit comme les supports cuspidaux de nos paires unipotentes enrichies, et la fibre d'une telle paire cuspidale est en bijection, donc la fibre, c'est ce que j'appelle UTE, pour T, la fibre associée à T, pour l'application de support cuspidal correspondante. Donc cette fibre est en bijection avec les représentations irréductibles d'une algèbre. Donc ça, c'était T. D'une algèbre l'algèbre d'un groupe tordu par un deux-cocycle. Alors, quel type de groupe? Donc lui, c'est un groupe de Coxeter fini, même mieux, un groupe de Weil fini. Et celui-là, WT, c'est un produit semi-direct de WT0 par un petit groupe qui envoie les racines positives de ce groupe de Weil sur des racines positives. Donc c'est la situation qu'on a ici, et c'est exactement la situation analogue qu'on va retrouver dans la correspondance de Langlands. Et donc, l'étape suivante, dont je vais parler tout de suite, c'est d'implémenter cette correspondance de Springer généralisée dans la correspondance de Langlands, c'est plus précisément dans le côté dual, enfin dans les paramètres de Langlands enrichis. Et donc ça marche bien. Alors, juste pour ne pas perdre trop de temps, ce que je veux vous dire. Donc, alors, théorème. Ben c'est exactement ce résultat-là, celui-là d'abord, mais dans le cadre des paramètres de Langlands enrichis, à savoir, on a une décomposition, enfin une partition de cet ensemble sous ensemble comme ceci. Alors, il faut juste que je vous définisse les objets. Alors, d'abord, une partition sur quoi? Alors, ce sont appelons cet ensemble B de G, parce que c'est l'analogue de ce qui apparaît dans le centre de Bernstein. Donc, B de G, c'est l'ensemble des éléments S, ou S. Alors, on va l'écrire comme ceci. Alors, je vais d'abord l'écrire comme ceci, parce que j'aime bien l'écrire comme ça. L check. Phi cusp, rho cusp. Ou, comme ceci, de manière équivalente, comme xnr phi cusp, rho cusp. Et je vous explique. donc une parenthèse. Alors, déjà, L check. Donc, j'ai un sous-groupe de Lévy. Donc, L est un sous-groupe de Lévy. De G. Et donc, L check, c'est son dual de Langlands, de la même manière que G check pour L. Ensuite, en XNR, j'ai oublié le L. NR de L-check. Ensuite, bon, comme son nom l'indique, phi rocus, si vous voulez, je pourrais l'appeler phi L. Donc la paire phi rocus, phi cusp rocus, c'est un paramètre de Langlands enrichi cuspidal pour L. Et donc il faut que je vous dise ce que ça veut dire. Donc, définition. Donc, de même qu'on a une notion de cuspidalité pour sur la variété unipotente enrichie, définition, on dira que phi rho bon, on va le mettre dans L, bon, enfin, et cuspidal si deux propriétés suivantes sont vérifiées. Alors la première propriété, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les paramètres de Langlands cuspido correspondent aux représentations supercuspidales. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Et donc, en particulier, donc ce qu'on sait dans les cas qui sont connus, que les paramètres de les paquets de Langlands associés à des représentations supercuspidales ont la propriété que le paramètre est discret, c'est-à-dire que l'image de WF croix SL de C n'est pas contenue dans un sous-groupe de Lévy propre. Donc on demande cette condition. Donc on demande que phi soit discret. En ce sens. Mais cette condition ne suffit pas en général. Elle suffit dans beaucoup. Si le paquet n'est formé que de représentations supercuspidales, cette condition va être suffisante. Mais il existe des paquets qui contiennent à la fois des représentations supercuspidales et des non-supercuspidales, par exemple des séries principales. Alors ça n'arrive pas pour SL2, mais ça arrive, bien sûr pas pour GLN, puisque les paquets, c'est des singletons, donc ils contiennent la seule représentation qu'ils ont, qui est supercuspidale ou qui n'est pas, mais on ne peut pas avoir les deux. Mais par contre, ça arrive déjà pour SP4, pour G2, et après ça continue d'arriver. Et donc, il y a une condition supplémentaire. Et donc, si on veut une notion qui caractérise du côté dual les représentations supercuspidales, cette notion ne peut pas être une notion qui soit uniquement donnée par le paramètre, puisque dans le paquet, ça mélange. Et donc, il faut une condition sur le rho. Et donc, on a le paramètre. Donc, on demandera que Uφ, c'est l'image de tout à l'heure de l'unipotence standard de SL2 par phi, que Uφ rho soit une paire cuspidale unipotente. C'est-à-dire que rho soit cuspidale. Que rho, en tant que au sens précédent, soit cuspidale. Donc, voilà, et on va donc. Ici, donc L est un sous-groupe de Lévy et phi cusp, comme leur nom l'indique, rho cusp, est un paramètre de Langlands enrichi pour L et qui est cuspidal. Voilà. Et alors ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie, dans le cours du côté groupe. À savoir qu'on avait un sous-groupe de Lévy dans les paires la variété de Bernstein, classe de conjugaison d'un sous-groupe de Lévy et de représentation cuspidale de ce supercuspidal irréductible de ce sous-groupe de Lévy. Mais si on veut aller un peu plus loin, si on veut avoir l'analogue de la décomposition de Bernstein, on veut s'autoriser à considérer aussi non pas seulement la classe de conjugaison, mais c'était aussi tout à l'heure dans le cours, à tordre par des caractères non ramifiés du Lévy. Et donc ici, on a quelque chose qui joue le rôle des caractères non ramifiés Enfin, c'est plus que ça joue. Enfin, non seulement ça joue le rôle, mais c'est en bijection naturelle avec les caractères non ramifiés du Lévy. Donc, ce sont juste les paramètres, enfin les morphismes. Dans le cas que, avec les hypothèses que j'ai mises, donc c'est simplement les paramètres dans L chapeau qui sont triviaux sur l'inertie. Donc voilà, donc, et donc ce groupe agit sur les paramètres. C'est-à-dire quand je fais agir un caractère, ce groupe sur un caractère cuspidal, j'obtiens encore sur un paramètre de Langlands enrichi cuspidal, j'obtiens encore un paramètre de Langlands enrichi cuspidal. Et donc ceci c'est juste l'orbite de ce paramètre de Langlands enrichi cuspidal, et je prends la classe de Jacek conjugaison. Okay. Donc voilà, donc ceci c'est les objets qui vont être dans le théorème, ce que j'appelle S-check, qui joue le rôle des paires inertielles de Bernstein, et on a une application de support cuspidal. Qui va de phi de E de G dans phi E cusp L, qui a un paramètre de Langlands enrichi pour G, lui associe un sous-groupe de Lévy et un paramètre de Langlands cuspidal de ce sous-groupe de Lévy. Alors, comment est définie cette application? Donc, très, très brièvement, en fait, le paramètre de Langlands, de la manière dont il est écrit, donc c'était un morphisme de WF croix SL de C à valeur dans le groupe dual. Et donc, il suffit pour connaître le paramètre, il est équivalent de connaître sa restriction à WF et sa restriction à SL2. Donc, du côté restriction à SL2, on utilise la correspondance de Springer et ce qu'on prend comme objet cuspidal associé, c'est le support cuspidal venant de la correspondance de Springer. Et sur la partie restreinte à WF, on utilise la propriété espérée de la correspondance de Langlands que Haynes appelle LLC+, c'est-à-dire qu'en fait, le paramètre de Langlands, la restriction à WF, de tout ce qui est dans une induite parabolique, est la même que la restriction à WF de la représentation supercuspidale qu'on induit. Il faut juste faire attention que dans la mesure où j'ai pris comme groupe de veille de ligne la forme WF croix SL de C, quand je dis restriction à WF, c'est restriction, mais pas par le planchement naturel. Il faut considérer le planchement où on a la matrice diagonale rectificative avec norme de W à la puissance 1,5, norme de W moins 1,5. Donc voilà, donc ça nous définit une application de support cuspidal et ce que j'appelle phi S-check, c'est la fibre de S-check par cette application de support cuspidal. Donc c'est exactement analogue à la décomposition de Bernstein que je rappelle juste pour mémoire. Et puis parce que je vais l'utiliser dans les minutes qui suivent. Donc, décomposition de Bernstein. Alors ici, c'est du côté groupe, la représentation du groupe péadique. Donc on a la catégorie des représentations lisses de G, qui est un produit direct de catégorie, sous-catégorie pleine rep SG. Où ici, S, c'est un sous-groupe de Lévy, et sigma, donc L Lévy, d'habitude, et sigma supercuspidal irréductible de L. Et la notation est la même, je prends je considère la classe de conjugaison de l'orbite de sigma sous l'action du groupe des caractères non ramifiés de L, groupe de caractères qui est en bijection canonique avec le XNR de L chapeau de tout à l'heure. Donc ça c'est la décomposition de Bernstein, et en fait ceci ça peut se voir comme un analogue de la conséquence de la décomposition de Bernstein sur les objets irréductibles, puisque ça c'est seulement des ensemblistes. Et donc justement, on voudrait mieux que simplement quelque chose d'ensembliste. Et pour ça, on va regarder, on va associer, et c'est l'objet de la dernière partie de mon exposé, à chaque... Donc ça, c'est ce que j'appelle des séries à la Bernstein, et c'est pour ça que je dis séries et pas blocs, puisque c'est seulement les objets irréductibles. Et donc on va associer à tout S-check une algèbre de Hecke affine généralisée, qui a la propriété que les modules simples de cette algèbre de Hecke sont en bijection avec la série correspondante. Alors peut-être que je vais d'abord, je vais effacer là, et je vais énoncer ce résultat, et puis je vais vous brièvement vous parler de l'algèbre de Hecke. Donc, les mêmes auteurs. Et donc, le résultat, c'est qu'il existe une bijection canonique entre phi. Donc, c'est ce que j'ai dit oralement que j'écris. Et les modules simples d'une certaine algèbre de Hecke affine généralisée, que je vais appeler H, J, check, S, check. Alors je vais juste donner un nom, je vais appeler phi rho mon paramètre de Langlands enrichi, et M de phi rho pour le module de l'algèbre de Hecke, et qui a les propriétés suivantes. Donc le paramètre est borné si et seulement si. Donc on a une notion de représentation tempérée pour les représentations d'une algèbre de Hecke. Donc paramètre de Langlands est borné si et seulement si la représentation est tempérée. Et d'autre part, le paramètre est discret si et seulement si essentiellement une série discrète. Bon, c'est un peu plus précis. Enfin, c'est un peu. Dans la mesure où on a des groupes non connexes, en fait, il y a une. Disons, plus une condition. Il y a une condition sur le rang d'un système de racines dont on a besoin parce qu'on travaille avec des groupes non, qui peuvent, dans le cas où le groupe n'est pas connexe. J'aurais pas dû effacer la décomposition de Bernstein. Mais non. Pas grave. On la connaît. Alors, juste deux choses. Cette algèbre de Hecke, qu'est-ce que je peux en dire? Je vous ai dit que c'était une algèbre de Hecke généralisée, alors je vais quand même être un peu plus précise que ça. Donc, c'est un produit. Alors. Donc, en fait, elle se décompose en trois morceaux. Mais je préfère l'avoir d'abord en deux. Donc, on va appeler R, S, G. Lambda, lambda, étoile, Q1 demi. Donc Q, c'est le cardinal du corps résiduel de F, produit semi-direct par une certaine algèbre de groupe tordu, éventuellement par de cocycles. Donc c'est vraiment analogue à ce qu'on a vu avant. Donc, deux cocycles. Et ça, c'est quoi? C'est une algèbre de Hecke affine. Donc l'algèbre de Hecke affine à paramètres, avec paramètres. Donc une algèbre de Hecke affine, elle sera obtenue comme produit d'une algèbre de Hecke Iwaori associée à un groupe de Weil fini, avec une partie, disons, translation, une partie commutative, Donc ça, c'est l'algèbre de Hecke affine. Donc les paramètres, on peut les calculer, on peut les définir. Donc ils sont associés à des fonctions poids lambda et lambda étoile. Et donc le groupe de Weyl associé. Donc il y a un groupe de Weyl bien sûr derrière. Donc le groupe de Weyl, disons sphérique associé, groupe de Weyl sphérique associé. Donc c'est-à-dire le groupe de Weyl qui correspond à l'algèbre de Hecke-Iwaori sous-jacente à cette algèbre de Hecke affine, c'est ce que je vais appeler WS check. Autrement dit, c'est le normalisateur dans G check de S check mod S mod L check, les notations tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le groupe analogue au groupe qui apparaît chez Bernstein, c'est-à-dire le normalisateur de la paire inertielle modulo le Lévy. Et alors, dit comme ça, c'est faux en général, parce que ça, c'est pas forcément. C'est pas forcément un groupe de Weyl, mais ce groupe-là, il s'écrit, il admet une décomposition en produits semi-directs par un groupe de Weyl fini, qui est le groupe de Weyl sphérique associé à mon algèbre de Hecke affine, et un groupe ici où gamma S est simplement les éléments de WS check qui envoient les racines positives de WS check 0 sur des racines positives. Et c'est le groupe qui apparaît ici. Donc voilà la situation à laquelle on arrive. Parallèlement, Heiermann, dans le cas des groupes classiques, a décrit les blocs de Bernstein en termes de modules sur une algèbre comme ceci, et sur une algèbre de ce type. Son résultat a été étendu à un groupe réductif arbitraire par Solovelle. Donc aussi, du côté Bernstein, on n'a que REP, S, G et... En fait, équivalente à une catégorie de modules. D'une algèbre de Hecke affine généralisée dans le même sens. Une algèbre de Hecke... qui s'obtient de manière totalement similaire, affine généralisée. Alors, si on veut vraiment dire ça, il faut supposer. Donc, il y a une version qui est sans hypothèse et qui est un peu plus compliquée à décrire. Et cette version-là marche dès que, enfin, dans beaucoup de cas. Je ne vais pas avoir le temps de dire tous les cas, mais en particulier pour tous les groupes, en particulier pour les groupes classiques, donc les formes intérieures de groupes classiques quasi déployés, on a ce résultat-là. Et le résultat final, enfin, c'est le suivant. Donc celui-là, je vais vous l'énoncer en temps. Oui, alors je n'ai pas eu le temps de vous expliquer exactement. Donc ça, c'est une donnée radicielle. Donc à partir du moment où on a défini les bons objets, on peut associer un groupe de Weyl fini, son complément dans WS check, un système de racines qui est un peu plus compliqué à définir, des fonctions lambda et lambda étoile, et donc une algèbre de Hecke. Et puis après, on peut montrer que c'est les modules simples de cette algèbre de Hecke sont en bijection avec notre série de Bernstein de paramètres de Langlands enrichis. Et dernière chose, qu'est-ce que j'en ai fait ? C'est une bonne question. Peut-être c'est plus simple du côté groupe, du côté représentation, c'est les fonctions qui apparaissent dans la formule de Plancherel. Dans le calcul de Silberger, qui donne les paramètres. Qui donne les points de réductibilité.
Et du côté groupe et du côté paramètres.
Et du côté paramètres, c'est des fonctions qu'on tire des travaux de Lustig sur les algèbres de Hecke affine, enfin dans le cas des paramètres, des représentations unipotentes, et qu'on adapte. Donc c'est des fonctions. Je peux dire. Donc c'est aussi ce que j'appelle des fonctions poids. Et donc ce sont des lambda et lambda. Donc en fait, dans beaucoup de cas, il y a juste lambda. mais dans les mêmes cas que dans le cas des groupes, il y en a deux. Et donc, ce sont des fonctions qui vont... Peut-être lambda est plus simple. Donc, lambda, elle va de RS check. Donc, une donnée qui est, donc on a une donnée radicielle et un système... Bon, ça, c'était la donnée radicielle. Et un système de racines qui donne la donnée radicielle. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et donc ça, ça a valeur dans des nombres rationnels positifs. Et lambda étoile est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin. En fait, c'est le même problème que celui qu'on a dans le cas de la formule de Plancherel. Il faut changer un petit peu le système de racines pour que ça marche. Et donc, il y a un nombre ici à calculer. Et ça, ça va donc de tel que... la condition, c'est que M alpha, alpha soit 2 fois un co-caractère, enfin, un double de co-caractère à valeur donc. Bon, et le calcul du M alpha, ça se fait avec, enfin, dans, par exemple, pour les groupes classiques, avec en regardant les nombres de torsions et des composantes irréductibles de la restriction du paramètre à WF. Et c'est soit le nombre de torsions lui-même, soit un demi du nombre de torsions. Alors, mais en fait, du côté groupe, ça marche si on prend une indéterminée, un nombre complexe quelconque, Z. Mais si on veut avoir le résultat que je vais donner à l'instant, c'est-à-dire si on veut que ça corresponde au cas du, enfin que les algèbres de Hecke des deux côtés se matchent, ce qu'il faut prendre, c'est qu'il faut prendre qu'un demi. Alors après, il y a certainement quelque chose derrière que pour l'instant on n'a pas encore compris, qui ferait intervenir des fonctions L. Du côté galoisien qui permettrait de dire pourquoi il faut qu'un demi sans passer par le côté représentation. Oui, bon, j'avais écrit le théorème là-bas, mais maintenant je suis là. Ça sera là. Donc, c'est si G est. Donc, il y a deux cas, en fait. Une forme intérieure pure. Alors, on va dire 2GLN, ouais, 2GLNF, d'un groupe classique, quasi déployé, ou bien si c'est G2. Donc, c'est simplement séparé parce que les auteurs ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est ABPS, donc Baum, Plyman, Solovel. Là, c'est avec Moussaoui, Solovel. Et là, c'est avec Yuchi Chu. Voilà. Et donc, dans tous ces cas-là, quelle que soit la composante de Bernstein, avec L non égale à G, donc pour un Lévy propre, d'une part, on sait par Solovel Heermann que... on a une équivalence de catégorie de Morita avec l'algèbre de Hecke ici. Et d'autre part, nous, on montre que ces deux algèbres sont en fait isomorphes. Voilà. Et alors, je vais pas l'écrire pour ne pas prendre trop de temps. Dans le cas 1, enfin disons, enfin, 1 oui aussi, mais dans le cas 1 et 2, ça c'est pour l'autre cas 3. Ce que je veux dire, c'est que la situation était différente. Dans le cas 3, il n'y avait pas de correspondance de Langlands pour le groupe G2. Donc en fait, on a utilisé ces méthodes et pour construire une correspondance de Langlands explicite dans le cas du groupe exceptionnel de type G2. Dans ces cas-là, on disposait déjà d'une correspondance de Langlands. Pour les groupes classiques, au moins lorsque le corps est de caractéristique 0 par Arthur. Et donc on a vérifié que notre correspondance, parce qu'une fois qu'on a ça, ça permet de définir une correspondance de Langlands explicite, puisqu'on a décomposé les deux côtés, donc on prend un objet irréductible d'un côté et on lui associe l'objet correspondant de l'autre côté. pour les représentations qui ne sont pas cuspidales. Hein. J'ai supposé qu'elle était diffuse, puisque sinon je ne fais rien, enfin, je reste la même. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans le cas des groupes classiques, notre correspondance, en fait, on a vérifié qu'elle était identique à celle d'Arthur.
Donc pour G2, vous utilisez le fait que tous les sous-groupes de Lévy, c'est les groupes que vous connaissez.
Et pour G2, les Lévy, bon, c'est GL2, ou le Thor. Et donc pour cela, on connaît. Après, bon, pour G2, on fait les supercuspidales. Donc toutes celles qui sont dans des paquets supercuspidaux formés que de supercuspidales, Caleta l'a fait, donc on prend la construction de Caleta. Il ne nous reste plus qu'à calculer les paquets qui mélangent des supercuspidales et des non-supercuspidales. Pour les non-supercuspidales, c'est bon par ça. Et pour les autres, on calcule à la main. Et après, il faut mettre en paquet. Et pour mettre en paquet, on calcule les degrés formels, enfin, on fait des trucs un peu ad hoc, et ça suffit. Ça suffit parce que G2 est petit, je pense. Voilà, ouais, je vais m'arrêter là.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.